Europe 1.
23h17 sur Europe 1 et nous accueillons Steve. Bonsoir Steve.
Oui, bonsoir Olivier, ça fait plaisir de vous avoir.
Ah,
vous
bah, allez bien, bien. Bonsoir, oui, ça va et vous?
Bah écoutez, là, maintenant que je suis en ligne, oui.
Très bien, très bien. Quel âge avez-vous, Steve?
Alors, 32 ans et depuis Bordeaux, là, je vous appelle. Enfin, là, je suis dans les Landes, là, pour l'instant.
Mais... Ah, la chance. Où est-ce que vous êtes dans les Landes?
Oui, oui. C'est magnifique. Bah, ce petit bled, Barbotin-les-Thermes, c'est pas loin de... Enfin, c'est à 30 km de Mont-de-Marsan.
D'accord. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous habitez là-bas?
Je vais voir mon père.
D'accord. Cette semaine. Très bien.
Et puis là, il y a un air frais, là, ça fait du bien quand même. Moi,
vous avez des orages aussi là-bas?
Ah oui, oui, c'est un petit peu venteux, mais ça va quand même.
Bon, très bien.
Mais ça me fait plaisir de vous avoir, parce que si vous voulez, je vous avais eu, ça remonte un peu. Je pense pas que vous allez vous rappeler de moi, mais c'était vers 2020.
Oui.
Je vous avais appelé parce que j'avais eu une rupture sentimentale ultra violente. Et j'avais vécu ça vraiment comme un deuil, quoi, en fait. Désolé du mot, mais c'est vraiment ça.
Et c'est souvent comme cela que l'on vit une fin de relation. Hein. On peut emprunter ce mot deuil.
Oui, c'est vrai que ça peut choquer certaines personnes, mais pour moi, c'est le deuil d'une personne vivante. Quoi. C'est violent. Quoi. Enfin, voilà. Et si vous voulez, quelques mois plus tard, si vous voulez, en fait, je voulais vous rappeler quelques mois plus tard parce que j'ai retrouvé l'amour et je suis depuis 4 ans avec la même personne.
Ah, super!
Et oui, et alors j'avais pas pu vous. Alors j'avais eu deux crises de calcul rénaux. Et pour ceux qui connaissent le terme médical, c'est colique néphrétique.
Ouais, c'est terrible.
Et
c'est
voilà, terrible. Voilà. Et à chaque fois que je voulais vous rappeler, le destin a voulu que j'avais ces crises-là. Et voilà. Donc et je m'en suis toujours entre guillemets parce qu'en fait, je veux donner de l'espoir aux gens. En fait, je voulais, si vous me le permettez, je voulais donner ce message important, comme quoi on peut être au fond du trou, avoir vraiment. Vivre une rupture, un deuil, et croire que tout est fini. Et par miracle, je dirais oui, par miracle, il peut y avoir tout à coup une rencontre qui, vous voyez, là, ça fait 4 ans, enfin, vous voyez, quelque chose qui change votre vie. Et qui, les miracles existent, quoi. Je veux vraiment que les gens le sachent, quoi.
Est-ce à dire que l'amour est miraculeux?
L'amour ou les belles choses qui nous tombent dessus, voilà, je voulais vraiment faire passer ce message, quoi, que ça, c'est possible. Quoi, voilà, que
tout est possible,
que rien n'est jamais
perdu.
Quoi, voilà.
Je le dis souvent.
C'est vrai. Et moi-même, je ne le croyais pas. Et aussi, et la dernière fois, je voulais vous dire autre chose. Décidément, vous allez vous dire que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais comme je voulais vous avoir...
C'est bien, je suis ravi.
Vous allez vous dire, il est pas net. Lui.
Non, pas du tout. Pas du tout.
En fait, je voulais vous faire part d'une anecdote totalement amusante. Mais alors la dernière fois, j'avais pas osé vous le dire, mais elle est complètement étonnante. En fait, pendant 3 ans d'affilée, il y a presque 15 ans de ça, j'avais 18 ans, et j'avais rêvé de vous fréquemment,
oui.
En fait, comme si vous étiez un conseiller d'éducation, d'orientation.
Mm-hmm.
Alors, je ne vais pas vous raconter, vous en faites pas les détails de ma vie, mais j'avais besoin d'un éclairage, j'avais besoin d'un grand frère ou quelqu'un, une figure en fait solide, quoi, qui pouvait m'aiguiller. Et je pense que d'avoir vu avec ma mère, je voyais vos émissions dans les yeux d'Olivier.
Oui.
Donc, ça remonte, c'était les premiers, hein, vraiment au début des années 2010, je pense. Et je pense que ça, votre. Que j'absorbe les comportements, les âmes des gens, et vous m'avez marqué. À 18 ans, je sentais une figure paternelle ou fraternelle qui pouvait m'aider, et j'ai eu un rêve récurrent de vous, et c'était toujours le même rêve en fait. Je venais dans le bureau, vous étiez comme un lycée par exemple,
oui.
Un conseiller de d'éducation.
Oui.
Les gens vont me prendre pour un fou, mais c'est pas grave. Et en fait, mais c'est un rêve qui, du coup, pendant, oui, 3 bonnes années, c'est quelque chose qui marque.
Vous avez rêvé régulièrement de ça ?
Oui, oui, c'était toujours la même chose. Je venais au bureau, on me disait, voilà, on va, et je te tutoyais, désolé, mais à un moment donné, je disais, Olivier, voilà, qu'est-ce que vous pouvez m'aider ? Et on dirait que vous étiez presque un père de substitution pour moi. Et ces rêves étaient extrêmement réalistes, au point que ça se transformait en rêve lucide. Hein, c'est-à-dire que certaines personnes, peut-être vous-même vous le savez, mais c'est des rêves où on sait qu'on rêve à un moment donné, on sait que c'est un rêve, mais tant pis, on y reste.
Mmh, mais je vois.
Voilà.
Mmh. C'est assez agréable, donc, d'ailleurs, comme rêve. je trouve.
Ah oui, oui, et donc vous aviez cette figure rassurante, et quand je vous entends à la radio, parce que bon, il y a 13 ans ou une quinzaine d'années, ça passe vite, donc ça reste toujours prégnant en moi. Quoi. Quand j'entends votre voix à la radio, je me dis, parce que les rêves sont bien faits en fait, c'est comme si je vous avais eu régulièrement, vous voyez, enfin voilà quoi.
Et donc, j'ai réussi à vous donner quelques conseils dans ce rêve au moins.
Oui, et c'est complètement dingue. C'est que oui. Et alors, je vais vous dire un truc qui est complètement fou. Je vous ai dit, j'ai dit, Olivier, vous ferez de la radio. Vous avez aidé énormément de gens. Et quand j'ai appris que vous faisiez de la radio, donc, il y a quelques années...
Oui, parce que je suis venu tard à la radio.
Voilà. Et quand j'ai appris que c'était la radio... Bon, mais tout ça, ce que je vous dis ce soir-là, je le dis pas aux gens, quoi. Enfin, c'est normalement, c'est personnel, quoi. Mais bon. Et donc, quand je vous avais fait la radio, je me suis rappelé de ça, parce que j'ai une excellente mémoire. Voilà. Et je vous avais dit, vous avez aidé beaucoup de gens, vous avez fait la radio, et depuis, et ensuite, je ne vous ai plus, et quand ma vie allait mieux, j'ai jamais plus rêvé de vous.
Ah, bon, bah super, au moins, j'aurais servi à quelque chose dans vos rêves.
C'est ça, voilà. Bon, écoutez, c'était une drôle d'anecdote,
vous voulez me parler des interactions hommes-femmes,
oui,
je crois.
Voilà. Alors, moi, je vais vous dire, Olivier, je voulais parler ce soir d'un sujet que je trouve extrêmement tabou, honteux même, pour beaucoup de gens. Mais moi, j'ai envie de le mettre sur la table ce soir. On peut en prendre quelques minutes, vous en faites pas, on va pas forcément détailler totalement ce que je pense. Mais c'est sur la misère affective et sexuelle des hommes.
Oui.
On parle souvent des femmes, de leurs problèmes, etc. À raison. Les hommes ont été très, très cons avec les femmes pendant très longtemps. Donc, on le paye un peu, quoi. Voilà, on le paye beaucoup, même. Mais on paye
pour une partie de ces hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont bien, qui sont respectueux.
C'est sûr. Oui, oui. Eh bien, justement, c'est tout là, ce que je veux dire, c'est qu'on le paye de manière disproportionnée, je dirais. Même ça ne va pas plaire aux féministes radicales.
Mais on s'en fout des féministes radicales, on s'en fout.
Oui. Du coup, c'est pour ça que j'avais besoin de vous en parler. Je sais que vous êtes ouvert d'esprit, vous. Et puis passer à une antenne, voilà. Et alors, je le vois autour de moi, si vous voulez, je vous le dis, il y a une dépression latente.
Qui est due à quoi, en fait, à votre avis?
Alors, une galère perpétuelle. Les amis que j'ai, ils rament totalement pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'affection, même pas de sexe, je vous dis. J'entendais hier, vous savez, les accro-sexes au Cap d'Agde et tout, mais je tiens vraiment à préciser que je ne parle pas de ça. Mm-hmm. Je parle de sexe, mais parce qu'on en a
besoin.
Oui, mais
vous parlez de relations normales, en fait.
Voilà, affectives et sexuelles, voilà, parce que je trouve... le sexe lié à l'affect, lié au charnel, mais qui est au sens le plus noble du terme, et bien même ça, qui pour moi, je trouve, est carrément une composante essentielle, quoi, pour nos relations.
C'est important, oui.
Et bien la plupart de mes amis, et d'autres j'entends partout, bon, j'ai fait des études de psycho, j'ai quelques relations, etc. Je travaille en milieu carcéral, là, bon, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, dans la société, on va dire, qui tourne, je constate qu'une grande misère est due à des dépressions. J'ai des gens en dépression et je sais d'où ça vient. C'est parce qu'ils galèrent, ils se font recaler, ils sont mal compris par les femmes, etc.
Les hommes ne rencontrent plus les femmes, ils ont des difficultés à rencontrer les femmes.
Alors, totalement. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai arrêté, pour être honnête, de sortir là. Je vais vous parler de mon expérience d'avant le Covid, où je sortais beaucoup en soirée. Mm-hmm. C'est très simple. Il y a une loi qu'on ne peut pas réfuter. Et là, je ne sais pas comment ça se passait avant, mais si une nana, une fille voulait rentrer le samedi soir, elle sort à Bordeaux ou ailleurs, elle décide de rentrer avec un homme.
Oui.
Elle rentre avec un homme. J'ai vu ça tout le temps. Tandis qu'un gars qui veut rentrer avec une femme... ou ne serait-ce que même d'avoir un début de relation sympathique, quoi, une approche qui débouche sur une discussion sympathique.
Oui.
Jamais. C'est-à-dire que, quand une fille veut se rentrer avec quelqu'un, elle y arrive, et un homme, il ne peut pas. Voilà. C'est ce que j'ai constaté trop souvent. En fait, il y a une facilité pour les filles d'avoir... Il y a une... Quoi que disent en fait les féministes, il y a maintenant... Il y a quelque chose qui s'est inversé. Il y a maintenant beaucoup d'avantages sociaux pour les filles. En tout cas, au niveau du domaine, je ne parle pas du domaine professionnel, etc. En tout cas, du point de vue strictement de ces relations humaines. Il y a les filles peuvent être beaucoup plus satisfaites et contentées qu'un homme. Et pour moi, ça, c'est un fait, quoi. C'est même pas quelque chose qui est à débattre, quoi. Et c'est et d'être devancé comme ça, ça, beaucoup le vivent très mal et ont des dépressions sévères.
Mais en fait, ils sont recalés pourquoi, à votre avis ? Parce qu'il y a aujourd'hui une image écornée de l'homme en société ?
Moi, je pense qu'il y a aussi le fait de la concurrence, tout simplement. C'est bête à dire, mais c'est l'offre et la demande, quoi. C'est-à-dire, vous le voyez, ne serait-ce que sur les sites de rencontres. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez Adopt-A-Mec, tout ça.
Tout... Non.
Mais en fait, c'est très simple. Les filles sont avantagées. Comme les boîtes, comme certaines boîtes, elles ne payent pas. Et c'est elles qui font leur marché sur certains sites. C'est elles qui choisissent le mec, elles le mettent dans le chariot.
Oui.
Vous voyez, voilà. Enfin, ce genre de truc, quoi. C'est assez révélateur. Mm-hmm. C'est la nana qui, la fille, a le choix. En fait, on pourrait résumer ça comme ça. L'homme n'a pas le choix.
Et est-ce que ça n'est pas dû à cette guerre ouverte menée par les féministes, dont vous parliez tout à l'heure, qui, même si elles sont minoritaires, crient plus fort que tout le monde et font passer un message dans notre société et qui, pendant longtemps, ont fait passer ce message depuis 10 ans que les hommes étaient des salopios, que les hommes étaient des obsédés, que les hommes...
Des prédateurs, voilà. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai des amis, certes, qui ne sont pas parfaits, qui peuvent être bruts de découvrage, qui sont un peu con dans leurs blagues, mais bon, sans être des bofs absolus, quoi. C'est des mecs qui peuvent être adorables, etc. Ils ont très vite été perçus comme des potentiels dangers, quoi, par des nanas ou avec un certain dédain, les recaler, parce que de toute façon, elles ont le choix, quoi. Mm-hmm. Vous voyez, c'est dégage, ou alors elles jouent un peu avec lui. Enfin, c'est malsain, je trouve. Hein. C'est malsain. Enfin, y a une dépression due à un manque de... Et puis, sans compter, moi, ce que j'ai appris récemment, Olivier, je vous le dis, c'est très grave, quoi. Le service des consommateurs, il devrait vraiment faire quelque chose. De plus en plus de sites jouent sur la misère affective, créent des faux profils. Et je ne parle pas des consommateurs. Hein. Ouais. Non, mais c'est gravissime. Hein.
De faux profils.
Ah oui, totalement. Il y a des sites, je ne peux pas dire les noms, il y en a énormément, de plus en plus. Mm-hmm. Ils font parler la personne, l'homme. Oui, je suis Tania, machin. Et le mec, du coup, il paye. Il joue sur la misère affective, qui est un phénomène de société. Les sites en profitent, évidemment. Tout est bon pour se faire du pognon. Et j'hallucine, quoi. C'est vraiment quelque chose de... Il y a des plaintes de plus en plus auprès du Union des consommateurs. Je ne sais plus comment s'appelle l'organisme exactement. Mais...
Je ne sais plus comment s'appelle cette... Oui, mais alors je ne savais pas du tout. C'est la première fois que j'en entends parler, vous voyez ça.
Ah, mais je vous jure, vous faites quelques petites recherches, vous verrez que je ne raconte pas de bêtises. C'est totalement hallucinant. Et moi, je croyais que c'était...
En fait, de faux profils qui parlent, donc...
Oui.
C'est-à-dire de faux profils derrière leur clavier, qui ne sont pas, en fait...
Ils sont financés, enfin, ils sont rémunérés sûrement par le site, et c'est leur business de tenir, comme pour la voyance, par exemple, du hôtel et tout ça.
D'accord.
De faire... Ah oui, ils jouent sur la misère affective, qui est un vrai problème. Les dépressions, les suicides et tout ça sont en partie dus à un manque cruel de relations humaines et de... c'est un jeu malsain, quoi, qui se produit. Et du coup, je ne veux pas défendre...
Il faudrait que les filles prennent la défense des hommes, vous savez.
Il y a quelques
filles sur TikTok, sur Instagram, qui produisent des vidéos assez drôles d'ailleurs, très, très franches du collier, mais bon, qui sont des femmes qui s'assument totalement, en fait, et qui se mettent à l'égal des hommes, en fait, parce que finalement, quand on est normal, on s'aperçoit qu'on est l'égal des femmes pour tout un tas de choses. Alors pas au niveau de la force physique, mais voilà, les femmes nous apportent des choses et nous apportons des choses aux femmes. Enfin, c'est moi j'ai toujours eu un rapport excellent avec les femmes. Mais vous savez tout ça, je crois que finalement c'est une histoire de respect en fait. Voilà, après on n'a pas le même âge, vous voyez, donc l'époque a changé beaucoup. Et moi je ne me souviens pas avoir ressenti une misère affective chez les hommes quand j'avais 30 ans.
Vous voyez ? Justement, c'est parce que je pense que c'est le... Ah non, mais je pense que c'est nouveau. Je pense que c'est nouveau. Je pense qu'on vit le début d'un phénomène, mais qui est... On ne peut pas... là, il y a une sorte d'inversion, on va dire, de vengeance, entre guillemets, beaucoup de féministes parlent des droits des femmes plus que tout, là, depuis quelques années. Et encore une fois, moi, je suis pour ce combat, mais à condition que les défauts qu'on reproche aux hommes, en fait, que les défauts qu'on a reprochés aux hommes dans nos sociétés d'avant, c'est pas pour les retrouver chez les femmes maintenant, quoi.
C'est clair.
Et c'est ce qui est, il y a cette volonté, je ne dis pas de toutes les femmes, heureusement, mais d'une bonne partie de féministes, comme vous dites, qui hurlent très fort et qui endoctrinent un petit peu. Je suis désolé, ce sont des idéologues qui, en fait, martèlent en tête les esprits.
Mais il y a tout un tas de chapelles qui sont, je vous dis, de petites chapelles, ouais. Dont des féministes qui ont semé le trouble, en fait, tout en voulant bien faire, hein, je suppose, mais, et qui voient en chaque homme un ennemi potentiel. Et on le sait, c'est pas comme ça que ça marche. Tous les hommes ne sont pas les ennemis des femmes et vice versa. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui peuvent avancer ensemble et construire ensemble. Mais vous savez, on est dans une société où tout se mélange. Vous voyez, tout devient. Il y a plus de limites, en fait. Et je pense que en repoussant les frontières comme ça. Qu'on dit être les frontières de la liberté, on brouille pistes.
Au nom de la liberté, on fait.
Au nom de la liberté, on fait un peu n'importe quoi aujourd'hui.
Et alors, ça me fait rire parce que c'est la frontière est fine vers une pensée totalitaire. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté ou au nom de la sécurité, on fait des dérives comme ça, quoi. Au nom du bien, on peut faire, c'est dangereux, quoi. Je trouve que il faut se calmer, comme vous dites, il faut avoir un certain recul, et je trouve que il y a toujours ces extrémités qui peuvent rendre une société malsaine, quoi, en fait. C'est dangereux. Moi, j'ai un ami là qui est coach sportif sur Paris. Je vais de plus en plus sur Paris parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Paris aussi, mais ça c'est une autre histoire. Et il est coach sportif et il me raconte des histoires de ces salles de sport. Il parle en fait avec, il fait un petit travail journalistique en fait. Il parle avec les gars de la salle de sport et souvent il me raconte des choses. Enfin, on a écrit un livre là-dessus en plus sur ce sujet. Et il y a vraiment un constat à faire, c'est que il y a une forme de détresse, j'ai envie de dire, quoi. Une détresse masculine, en fait, face à cette mutation. Comme vous dites, à 30 ans, je pense que, j'ai vu des reportages, des films, à votre époque, à 30 ans, il y avait une certaine, nonchalance, entre guillemets, vous faisiez la fête, il y avait une aisance.
Il y avait une simplicité dans les rapports humains qui n'est plus celle d'aujourd'hui. C'est une évidence. Les réseaux sociaux ont amené le trouble, en fait, dans la tête des gens, mais des hommes comme des femmes. Vous voyez, je me souviens avoir fait un tournage il y a 2 ans avec, vous savez, ces jeunes femmes qui font des collages de phrases dans les rues contre les violences faites aux femmes. Et je me souviens avoir fait un tournage avec elles qui s'est très bien passé, à la fin même l'une des jeunes filles qui me disait « Ah, ma mère vous connaît depuis très longtemps, elle regarde vos documentaires, elle vous aime beaucoup. » Et me retrouvait avec un message après, sur Instagram, où, comme si cette jeune fille ne pouvait pas se permettre de dire que ce tournage s'était bien passé, avec un homme de plus de 50 ans, blanc, mais elle parlait de cisgenre, de sororité, c'était franchement, c'était bas de gamme, en fait.
Je sais même pas ce que c'est cisgenre, vous voyez ça.
Cisgenre, c'est pouvoir dire que c'est hétérosexuel, en fait, un homme cisgenre.
Ah oui, ok.
Voilà.
Oui.
C'est un homme normal, quoi.
Mais ça, c'est terrible.
Enfin, un homme normal. Je ne voulais pas dire que les autres ne sont pas normaux, mais ça veut dire ça, je crois.
C'est ça, pour eux, le tout venant, hétéro...
Alors, un homme revendiqué homme et assigné homme à la naissance, me dit-on. Voilà ce que c'est qu'un cisgenre. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors, je vous confirme qu'à mes 30 ans, c'était beaucoup moins compliqué.
C'est ça. Moi, je regrette qu'on mette des étiquettes. Je trouve ça, vraiment. Moi, voyant psychanalyse, je vous le dis, ça, c'est purement personnel. Pour moi, on est tous bi, plus ou moins. pas détaillé, mais on est tous plus ou moins bi. Et pour moi, en fait, il y a des thèses qui... Y a, évidemment, en intercommunauté, on n'est pas d'accord forcément. Moi, on a tous un pourcentage de bisexualité plus fort que d'autres, quoi. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Parce que il y a plein de récits, de témoignages, par exemple pendant la guerre ou dans prison, plein de choses, où selon des situations, on a des rapports avec le même sexe, par exemple, alors qu'ils se disent totalement hétéros. Mais, enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'homme est à la base, on a un pourcentage de bisexualité. C'est aussi une histoire de comment? C'est aussi une histoire de situation, de... Mmh. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais bon, moi, je suis intimement convaincu qu'on est bi. Alors, moi, je suis pour l'universalisme, en fait. C'est-à-dire que mettre des étiquettes, ça sème le chaos pour moi. On n'a qu'à nous mettre une petite étiquette sur le...
Écoutez, je pense surtout que ce que l'on fait de ce qu'on a dans la culotte ne regarde que nous, en fait.
Et, oui, oui, en plus.
Et donc, toutes ces étiquettes me gênent, moi.
Oui.
Vous voyez, ça. Vous me dites ça, et moi, j'ai... Je ne crois pas que tout le monde soit bi, mais je ne sais pas, en fait. Et peu importe.
Oui, oui, oui.
Et peu importe.
Oui, oui, bien sûr.
Peu importe. Mais c'est vrai que je ne sais pas. Enfin, la plupart de mes potes autour de moi sont de purs hétéros. Voilà.
Je rigole à chaque fois quand on me dit ça. Mais,
mais je vous jure.
Mais bien sûr, ils sont tous hétéros, bien sûr.
Ouais, ouais.
Moi, j'ai eu plein de... Vous savez, j'ai eu des patients... des personnes qui, combien de gens, même dans le cercle privé, disent qu'ils sont tous hétéros, hein, mais qu'ils ont des histoires. Vous voyez.
Oui, oui, mais j'ai un cercle très restreint d'amis, en fait, donc je suis sûr de ce que je dis. Mais, nous échangeons souvent aussi, nous échangeons souvent, bien évidemment, comme les femmes le font sur la sexualité et sur nos sexualités, et ça, j'ai aucun doute là-dessus, mais peu importe, finalement, il y a des gens qui font ce qu'ils veulent.
C'est intéressant. Moi, si vous voulez, j'adore la psychologie, donc je vais peut-être un peu loin des fois, mais c'est vrai que, moi, j'aimerais qu'on soit tous indépendants, comme vous dites, sans étiquette, d'esprit, tout ça, mais il y a des idéologues qui foutent le bordel, quoi, qui veulent penser à notre place et qui nous mettent dans des cases. Ça, tant que l'homme fera ça, je pense que dans une société, ça ne pourra jamais rouler.
Vous voyez, Marine nous écrit au 739-21, vous avez votre point de vue d'homme, mais le monde est bien plus hostile pour les femmes. Nous n'avons jamais dit le contraire, Marine. Le monde pour les femmes est bien plus hostile, vous avez raison.
Mais voyez, regardez Olivier, excusez-moi de vous couper, ça m'énerve. C'est-à-dire qu'on est dans un système de compétition. Là, j'ai pas voulu opposer hommes et femmes. Et tout de suite, mais les femmes souffrent plus. Voyez,
je pense que de par la nature même des choses, parce que je le dis souvent sur cette antenne, l'homme étant plus fort physiquement que les femmes, malheureusement, cela crée cette hostilité que les femmes ressentent. Mais elles ne font pas que le ressentir, hein. Elle est bien réelle. Parce qu'il y a, des hommes qui s'imposent aux femmes par la force, en fait, par leur physique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est... Marine, vous pensez que mon point de vue est celui d'un homme? Non. Oui, c'est le point de vue d'un homme. Mais d'un homme qui aime et respecte les femmes, qui a beaucoup d'amis femmes, qui sera le premier à sortir la machine à refouler les crétins en route.
Je vous ai suivi souvent et vous avez vraiment presque, vous êtes révolté contre des comportements.
Mais je pense qu'il a été nécessaire de. Je pense qu'il a été nécessaire de, lorsqu'on est une personnalité publique, il est nécessaire. D'user de justement de ce pouvoir d'être entendu pour remettre certaines choses à leur place. Les violences faites aux femmes dans ce pays continuent de plus belle avec des gouvernements successifs qui, parlent beaucoup mais ne font pas ce qu'il faut pour réduire ces violences faites aux femmes. Je le dis souvent, on devrait appliquer le même système législatif que l'Espagne et nous réglerions en grande partie les problématiques de violences faites aux femmes. Nous ne le faisons pas. Pourquoi ?
C'est vrai.
Pourquoi ? Pourquoi ? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. C'est une histoire de pognon. Parce qu'aujourd'hui... Mais oui, aujourd'hui...
Ça fait tourner le monde.
Mais vous savez, en Espagne, aujourd'hui, quelqu'un, qui, un homme qui met une claque à sa femme, peut dormir en prison le soir même.
Ah, oui, oui, ça ne m'étonne pas.
Vous voyez ? Donc,
dans
les choses...
Pays,
bah, oui.
Sinon pire.
Mais les choses ainsi faites ont réduit considérablement les féminicides et les violences faites aux femmes en règle générale. Ça veut dire qu'il y a tout un paquet de mecs qui craignent...
Ça donne un cœur...
Oui, et qui, et aujourd'hui en France, savent qu'ils ne craignent pas plus que ça.
Ouais, ouais, ouais.
Comme aujourd'hui en France, un escroc peut vous arnaquer de 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Il sait qu'il ne risque rien.
Ouais.
C'est la réalité, hein, Steve.
Ouais, je sais bien, et c'est terrible parce que c'est au petit bonheur la chance, la justice, en fait, au bout d'un moment.
C'est un peu ça, en ce moment, malheureusement.
C'est terrible.
Et ce qui est terrible, c'est que on a une justice qui s'engorge, qui s'étouffe, et qui fait qu'aujourd'hui, les contribuables que nous sommes ne sommes pas protégés. Et on parle des violences faites aux femmes, c'est exactement la même chose. Quand vous pensez qu'une affaire de viol sur 10 va au bout, vous vous rendez compte la lecture de ce chiffre-là montre combien notre justice n'a pas le temps de faire bien les choses.
Et malheureusement, des fois, je me dis, c'est les vraies affaires. Parce que, voilà, il y a des vraies démontées pour moi. Enfin, voilà. Mais j'ai bien peur que les vraies affaires passent pour X raisons sous silence. Quoi. Et que j'espère pas, je dis ça comme ça, mais j'espère que voilà, le maximum de vraies affaires sont traitées et bien
je ne sais pas.
Bien jugées. Quoi.
Je ne sais pas, mais vous voyez,
évidemment, on n'y est
pas.
Mais...
J'ai eu beaucoup de témoignages sur cette antenne de personnes qui avaient été arnaquées et qui n'ont même jamais eu la moindre nouvelle, de la justice.
Ouais.
Donc. Ce sont
c'est vraiment un petit bonheur la chance quoi. C'est aléatoire.
C'est juste en fait une histoire de respect à la vie et cette justice aujourd'hui ne respecte plus les citoyens que nous sommes en ne prenant pas en ne faisant pas attention à nous, en ne s'occupant pas de nous, mais tout ça parce que on lui donne plus les moyens, c'est-à-dire c'est encore une histoire d'argent, donc de budget. Eh bien nous avons une justice qui fait la part belle aux arnaqueurs, aux mecs qui frappent les femmes, à plein de mecs, finalement, qui ont compris que, bah, finalement, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Voilà.
Ouais.
moi, je vais vous dire, je vais avoir 60 ans cette année. J'ai connu un pays où vous n'aviez pas intérêt à faire ce genre de choses. Mais de ça, c'était il y a 30 ans. Si vous frappiez une femme... Il y a 30 ans, alors je parle vraiment, pour le coup, attention, hein, je parle de faits graves, parce que les violences aux femmes ont toujours existé, et il y a eu une certaine permissivité, je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas, ça, on a permis beaucoup de choses dans ce pays, et puis dans tout le monde occidental. Mais il y avait une justice qui roulait à un moment dans ce pays. Aujourd'hui, il ne roule plus.
Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas eu encore affaire à la justice.
Écoutez, j'espère que vous n'y aurez pas affaire, en fait.
C'est ça. Oui, oui, oui. On me le dit, tout le monde me dit ça, mais bon, voilà, j'espère aussi. Enfin, voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce malaise et puis ce qui est réel quoi, chez les jeunes hommes. Quoi.
Bon, mais n'oubliez pas que vous disiez que tout était possible au début de votre témoignage.
Oui,
donc, il faut que vous leur disiez à vos copains que tout est possible.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Et alors j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur mon livre là, que j'ai écrit sur le sujet. Est-ce que je peux donner le titre ?
Allez-y, je vous en prie.
C'est Paroxysme de la misère humaine et sexuelle.
Mm-hmm.
Voilà, vous pouvez le trouver sur la Fnac, Amazon, etc. Et en fait, on a écrit, c'est un cri du cœur. Ces deux jeunes gars, en fait, on a écrit notre regard en fait sur la société, sur à travers voilà ce qu'on constate quoi sur les réseaux sociaux, les interactions de femmes et c'est pas lourd hein, comme c'est un petit livre qui parle de ça et si vous pouviez le lire, j'aimerais bien avoir votre avis un jour, mais
d'accord.
Voilà,
envoyez-le-moi ici à Europe 1.
Ça marche.
Si vous pouvez, hein.
Ben, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, ça me fait très, très plaisir de vous avoir eu.
Hein, ben, moi aussi. Et puis, ben, comme ça, vous allez rêver de moi pendant 3 ans.
Ben, vous allez m'aider pour quel problème,
vous,
on verra.
Vous en aurez repris pour 3 ans, là. Ben, écoutez, vous me direz, hein, si, vraiment, si vous rêvez à nouveau, vous me le dites.
Je ne sais pas, mais bon, on verra.
Très bien.
En tout cas, merci de m'avoir aidé pendant ces 3 ans.
Voilà. Je vous en prie. Et puis, portez-vous bien, mon cher Steve.
Merci, à bientôt.
Bonne soirée à vous, au revoir.